Franck Nicolas, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur des investissements et solutions clients chez Natixis Asset Management. On va parler avec vous de vos perspectives, de la manière dont vous voyez la stratégie d'investissement et les perspectives pour 2013. Après une année 2012, il faut le rappeler, qui a été plutôt bonne pour les investisseurs sur beaucoup de classes d'actifs, ce qui en a étonné certains. Comment vous envisagez-vous cette année 2013?
La question qui se pose déjà, c'est est-ce que effectivement l'embellie sur les actifs risqués va continuer? On a un vrai changement de perception du risque de la part des investisseurs, et d'ailleurs on s'inscrit assez volontiers dans cet élément-là, avec un peu des risques extrêmes qui sont évacués, en tout cas la partie la plus désagréable d'entre eux, les défauts souverains, les faillites bancaires, la déflation mondiale. Il y a un certain nombre de choses quand même qui semblent derrière nous. Il faut rester prudent quand même parce qu'on a bien vu que la fragilité encore du contexte macro-financier devra probablement nous accompagner pendant un certain temps. Donc il faut être prudent là-dessus. Mais on sent qu'il y a une véritable amélioration. Alors il y a plein d'éléments pour en attester. La croissance mondiale est modérée. On l'attend pour nous très modeste, voire médiocre dans certaines zones. Le marché semble acheter du temps, le temps que des réformes structurelles en Europe se produisent, peut-être qu'il y ait de la réindustrialisation aux États-Unis, peut-être que les modèles émergents évoluent également vers un peu plus de consommation domestique. Il y a des inflexions réglementaires qui pourraient favoriser les actifs risqués aussi, on pense pour les assureurs à Solvency, pour les banquiers à Bâle III. Donc on a envie, nous, de s'inscrire aussi dans cette, peut-être pas dans un rebond effréné des classes d'actifs telles que 2012, vous y faisiez allusion, mais à tout le moins dans une redistribution des risques vers un peu plus de symétrie, en fait, dans la perception du risque des investisseurs.
Alors, on peut dire qu'il y a eu effectivement que les États-Unis ont effacé, on va dire, ces années 2007-2012, en tout cas sur les indices. Hein, quand on regarde du côté des indices, c'est plutôt bien passé pour les actions américaines. Sur la zone euro, moins, mais on a eu donc ce rebond. Est-ce que ça veut dire que forcément, vous allez vous intéresser d'abord à la zone euro, d'abord aux actifs et aux actions de la zone euro?
Alors c'est vrai que sur les États-Unis, vous y faisiez allusion, les indices sont revenus à leur niveau en fait quasi d'avant-crise. C'est pas complètement par hasard non plus. La croissance américaine est en dessous du potentiel. Maintenant, le potentiel de croissance américain a peut-être un peu baissé aussi. Donc nous, on attend une année autour de 2% sur les États-Unis. On a un véritable dynamisme du marché de l'emploi. Taux de chômage qui reste élevé, mais des créations d'emplois qui sont vives. Le marché immobilier semble avoir touché un plus bas. On a aussi, bon, je le disais, une réindustrialisation. Donc il y a quand même cette vivacité de l'économie américaine. Le consommateur, qui était le poumon du PIB, hein, avec une proportion de la consommation dans le PIB qui était impressionnante, plus élevée qu'ailleurs, est en train de repartir parce que le consommateur s'est beaucoup désendetté. Donc il y a un certain nombre. Mais le problème, voilà, c'est que ça a déjà été un peu joué, ça, par les indices. Donc on aurait plutôt envie de jouer les zones en retard et par conséquent la zone euro. Maintenant, la zone euro, c'est un ensemble qui est relativement inégal, on le sait bien. Il y a aussi des échéances très importantes en 2013, des échéances électorales. On reparlera probablement de la soutenabilité de la dette aussi en zone euro. Donc on va le jouer, mais plutôt sur des secteurs qui sont exposés à la croissance internationale ou des secteurs extrêmement en retard. Donc attention sur la zone euro, mais c'est vrai qu'on en fait aujourd'hui, si on a une toile de fond qui s'améliore, comme je le disais, on pense que la zone euro pourrait rattraper une partie de son retard.
Alors, vous parliez de ces entreprises qui peuvent profiter de la croissance mondiale, ça fait penser bien entendu aux pays émergents. Là, quand on regarde sur les dernières années, hein, les pays émergents, en tout cas les marchés émergents, en termes pour les actions notamment, ça n'a pas été terrible. Par contre, il y avait de la croissance, mais on a eu effectivement en Chine un certain nombre d'alertes. Aujourd'hui, le scénario justement de la Chine, on voit que les acteurs ont été rassurés par les dernières publications, on se méfie toujours de ces publications, mais visiblement, ils veulent croire que la Chine puisse avoir une croissance intéressante en 2013.
Oui, on risque d'être sur le fil, hein, pour la croissance chinoise, c'est-à-dire que le consensus, et d'ailleurs à peu près notre analyse, tourne table sur une croissance à 8%, peut-être un peu plus. On sait que c'est à peu près le point, hein, entre 7 et 8 qui équilibre l'exode rural, donc on ne sera pas loin d'être sur le fil. Il y a des relances chinoises, mais qui sont plus timides, ce qui est un peu inquiétant parce que bon, on avait vu des relances, hein, en 2008 à peu près d'une ampleur de 14% du PIB. On est plutôt là sur dépenses d'infrastructure autour de 1%. Donc est-ce que ça veut dire que les autorités chinoises se sont peut-être aperçues aussi qu'il y a une bulle de surinvestissement, ce que beaucoup d'observateurs d'ailleurs présupposent. Donc, alors clairement, cette croissance chinoise sera un des nœuds vraisemblablement de l'année 2013, parce que quelque part, beaucoup d'autres régions émergentes nous préoccupent également. Hein. On sait que, par exemple, bon, la Russie est traditionnellement très liée au prix de l'énergie, même si c'est un peu caricatural, ça demeure vrai. Le Brésil a beaucoup tiré sur la manne du crédit. C'est un pays qui est handicapé par les échanges flottants et qui importe du quantitative easing pour refuser ça avec une baisse du dollar. Pour refuser ça, il y a une surenchère un peu à la baisse des taux, et le Brésil ne mérite pas réellement ça, parce que la croissance reste quand même assez vive, et une distribution de crédit assez lourde, donc on est assez sceptique sur cette région. L'Inde, même chose, qui n'a pas vraiment profité de la période 2004-2007 pour investir. Donc clairement, il faut que la Chine, dans les émergents, soit au rendez-vous, ou alors là, effectivement, on aura une autre difficulté. On pense que ça pourrait passer avec une croissance autour de 8%, mais on sait malgré tout que c'est le niveau un peu tangent et honnêtement, peu, je pense, de prévisionnistes peuvent être précis à 50 points de base près.
Alors, du côté, justement, peut-être des nouveautés de ce début d'année 2013, c'est ce qu'on a pu, voir un certain nombre de titres, d'ailleurs, à ce sujet-là, sur la guerre des devises, the currency war, avec le Japon, bien entendu, qui s'invite dans ce paysage économique. Est-ce que ça peut avoir un impact sur les investissements que vous pouvez faire en 2013?
Oui, ça sera la clé, mais c'est un enjeu d'incertitude pour le moment, parce que on a vu, hein, le Japon, donc, qui prend en main les choses, si tant est que ça ne soit pas une fois de plus, parce qu'il y a eu plusieurs tentatives un peu infructueuses. Effectivement, le yen qui avait servi de valeur refuge est trop fort et handicape les exportations japonaises, qui sont en plus très concurrencées par leurs voisins, la partie Taïwan, Thaïlande, Corée, qui sont sur le même mix produit, mais pour moins cher finalement. Donc là, c'est effectivement une clé justement qui peut concurrencer l'économie européenne, puisqu'on sait que l'Allemagne, hein, finalement, qui est un exportateur et une nation industrielle très compétitive, est en front line avec le Japon. Donc finalement, si le yen vient à baisser, peut-être que ça pourrait nuire à l'Allemagne aussi. Donc la zone euro, quelque part, je disais, est d'un niveau inégal, on le sait, mais même la locomotive allemande, qui a déjà un peu marqué le pas par un effondrement du commerce intra-zone, hein, parce que ses clients européens se portent mal, pourrait également être concurrencé par le Japon. Donc effectivement, on ne connaît pas la fin de l'histoire et ça risque d'être un des facteurs d'incertitude de 2013.
Peut-être en conclusion, donc en faveur effectivement des marchés actions, sur la partie obligataire, on entend encore dire qu'il y a encore des choses à faire. Alors sur certains actifs de cette classe obligataire, puisqu'on évoque aussi de ce côté-là une bulle effectivement qui va peut-être éclater, on verra ça. Il y a des choses à faire sur ces marchés obligataires?
Alors, sur l'obligataire, je serais assez simple. Je crois que soit il faut prendre du risque, soit il ne faut pas y être. C'est-à-dire, si on va sur les marchés obligataires aujourd'hui, c'est pour des actifs qui sont en situation technique encore attractive. Je pense aux convertibles, aux AID, à la dette émergente et à certains états périphériques. Maintenant, dans le cas d'un scénario où les choses à nouveau se gâteraient, où on serait en rechute sur les questions de dette européenne, sur des questions politiques surtout, très clairement ces actifs souffriraient, mais les autres actifs obligataires, je pense aux obligations gouvernementales solides, l'Allemagne, les États-Unis, un degré moindre la France, ou le crédit investment grade, ces actifs-là sont un peu à bout de souffle, ils peuvent faire du sens dans une stratégie obligataire, mais dans un portefeuille global, très clairement, ils n'apportent plus rien aujourd'hui. Donc sur l'obligataire, il faut faire un choix, le risque ou rien.
Ça sera le mot de la fin. Merci Franck Nicolas d'avoir fait le point avec nous, donc directeur des investissements et des solutions clients chez Natixis Asset Management.
Merci.